Anna Inès Ansaldo, elle est professeure titulaire à l'École d'orthophonie et d'audiologie de l'Université de Montréal. Elle est également directrice du laboratoire de plasticité cérébrale, communication et vieillissement au Centre de recherche de l'Université ou de l'Institut universitaire gériatrique de Montréal. On parle de Compas, cette application qui a été lancée au printemps 2019, qui tranquillement fait sa place. Une application qui veut utiliser images, musique et sons marquants dans la vie de, que ce soit Luc, Jean-Sébastien ou qui que ce soit, des matériaux donc qui vont travailler les souvenirs d'un aîné qui est confronté à des problèmes de communication causés par la démence. Expliquez-moi un peu, Madame Ansaldo, comment fonctionne l'application, les souvenirs?
Oui, bien sûr. Bonjour. Et en fait, l'application a eu son origine à partir de recherches qui montrent les liens importants entre émotion et communication. Des recherches en neurosciences montrent très bien que notre cerveau est câblé de sorte à faire des liens très importants entre les émotions que l'on ressent et le langage qui y est associé. Les images, la musique et les sons de la nature même sont des puissants déclencheurs d'émotions. Donc, dans les cas des personnes atteintes de démence, c'est pas le souvenir exact, la mémoire spécifique de l'épisode qu'on veut évoquer par une photo, par une vidéo, qui fait l'effet. C'est en fait le fait que regarder ces images-là, ça évoque des émotions positives, et ces émotions positives-là vont finir par déclencher le langage. En fait, avant de communiquer verbalement, on communique par le partage des émotions. Quand on est bébé, puis on n'a pas de langage, ouais. On communique de cette manière-là. Puis il y a beaucoup d'informations non verbales qui servent à déclencher aussi la communication.
Mais comment ça fonctionne? C'est comme si vous vous asseyez à côté de moi et vous me montrez des souvenirs familiaux avec le téléphone. Mm-hmm.
En fait, Compas, c'est une application qui permet de garder dans un espace sécurisé qui se trouve sur les clouds. Ça, c'est important parce que ça peut être accédé par des multiples membres d'une famille ou des professionnels de la santé ou des préposés aux bénéficiaires sur le terrain et des gens qui ne sont pas sur place. Et tout le monde peut verser dans cet espace-là des photos ou des musiques. Maintenant, on a fait ça d'une manière un peu plus efficace, dans le sens que selon la date de naissance de la personne et le lieu de naissance, nous, on a créé des listes que les familles peuvent avoir accès.
Disons des listes plutôt de type universel.
Des listes, bon, on sait qu'à telle époque, dans tel pays, bien sûr, on n'a pas tous les pays du monde, là, mais des pays qui sont, en fait, où il y a plus d'immigration ici au Québec et au Canada aussi. Puis si on est né à telle année dans tel pays du monde, il y avait tels enjeux, il y avait tel type de musique. Et comme on sait qu'il y a une fenêtre d'âge où ces musiques-là, puis ces souvenirs sont particulièrement marquants dans la vie d'une personne. Bon, on calcule à partir de la date de naissance à quel moment la personne avait entre 25 et 35 ans, puis ben, on est pile poil dans des régions d'intérêt pour déclencher des émotions. Puis ces émotions-là, en fait, quand on partage ce matériel avec la personne, ça peut commencer par, générer un petit bout de son ensemble, ce qui après va faire parler la personne à propos de ces musiques-là, ou ça peut être tout simplement le fait de ressentir cette émotion positive qui fait en sorte que la personne est plus ouverte à la communication, parce que ce qui arrive avec la démence aussi, c'est que avec la progression de la maladie, c'est pas que les personnes ne veulent pas communiquer, c'est qu'ils n'ont pas accès à l'initiative de communication. Donc, via l'émotion, on peut contribuer à qu'ils soient engagée dans une situation de communication.
Donc la musique ou l'image sert de gâchette pour initier une réaction. Oui, oui, oui.
Exactement.
La fin de chacune des sessions de communication, le proche aidant peut donner, si j'ai bien lu, une appréciation de la communication. Dans quel but?
Ben, en fait, le but de ça est premièrement de pouvoir partager ça avec les autres aidants, que ce soit aidant naturel ou professionnel, parce que supposons que moi, je travaille avec Madame X aujourd'hui et j'utilise une musique de Charles Aznavour, puis à partir de cette musique-là, Madame commence à me raconter des choses de son histoire, puis d'un amoureux qu'il a eu. Je vous parle d'un exemple réel qui me vient à l'esprit.
D'accord.
Si je note ça, disons, si je note ça dans les notes des dents, les autres aidants vont savoir en ouvrant « Ah, ça marche, ok. » Donc ça, c'est un bon...
C'est la force du nuage.
Exactement. Et tout le monde va pouvoir ajouter aussi « Ah oui, c'est vrai, je me rappelle que ma grand-mère m'avait parlé de ça, donc vous pouvez aussi lui parler de ça. »
Est-ce que, ça demande une certaines compétences pour utiliser l'application ou à peu près n'importe qui peut bien s'en tirer?
Disons que ça demande une certaine compétence. Comme je vous dis, la chose la plus difficile, c'est d'uploader du matériel. Okay. Donc là, on a créé ces listes. Mais sinon, après, ce qui est important, c'est de savoir comment faire pour se servir des moments, des ébullitions émotionnelles pour déclencher la communication. Et c'est pour ça qu'en général, ce que l'on fait là, dans les CHSLD ou dans les endroits où on travaille, que ce soit à domicile ou en centre de jour, là, parce qu'on a des projets de recherche en cours, et on forme les gens à savoir, à qu'ils sachent comment se servir de ces moments pour initier la communication et entretenir la communication, parce que il faut surtout pas se précipiter, il faut toujours être très attentif au non-verbal, il faut toujours laisser le temps à la personne de trouver ses mots, et il y a des stratégies aussi pour l'aider à retrouver les mots quand cela n'est pas possible.
Une personne atteinte de démence peut-elle aussi bien échanger, communiquer, disons, autant que faire se peut, là, mais avec quelqu'un, que ce soit par Zoom, par Skype, donc à distance, que si la personne est juste assise à côté d'elle?
Mais de fait, ce que l'on fait, c'est
parce que là, ça prend quelqu'un pour opérer l'ordinateur, ça prend...
Ça peut être
compliqué pour elle, là.
Ben, là, c'est pas la personne qui... C'est jamais la personne atteinte qui opère compas. Il y a toujours un aidant. L'aidant, ça peut être un préposé, peut être quelqu'un qui est dans le domaine des loisirs, ça peut être une infirmière. En fait, on a formé des gens tout azimuts sur le terrain en CHSLD. Et si c'est à distance, ce qu'on essaye de faire maintenant, c'est de jumeler compas avec Zoom. Donc, en fait, une application de ce type-là. Et en fait, ce qu'on fait, c'est que c'est l'aidant qui est sur le terrain, qui a tout le temps le contrôle des compas.
Et en terminant, est-ce que, disons, une personne en loisir peut jumeler la sœur et la personne à distance et les deux communiquent, mais grâce à la tierce personne?
Absolument.
OK, super. Bon, j'entends que vous travaillez sur une version Android. Vous travaillez également pour rendre cette application accessible. Donc, pour l'instant, c'est uniquement disponible sur le App Store. Compas, C-O-M-P-A-S. Merci beaucoup, beaucoup, Anna-Inès Ansaldo. Ça a été apprécié et surtout fort intéressant.
Merci beaucoup, ça me fait plaisir.